Alors, on a entendu beaucoup de choses et j'aimerais tout de suite qu'on prenne un verset. Alors, ma feuille, elle est là. Tu peux prendre Luc chapitre 2, versets 8 à 19. Et Paul nous a réparé le pupitre. Donc ça, c'est des choses que vous ne voyez pas, mais moi, je le vois. Le pupitre est réparé. Donc, je suis content. Merci, Paul. Alors, on va lire la petite histoire de la naissance de Jésus. C'est important quand même. Mais ce n'est pas sur ça que je vais prêcher, donc on va y aller vite. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie, Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Alors, ok, reprends le verset. Moi, ce qui m'intéresse ici, verset 3 ou 4. Mon ange, l'armée céleste, tu vois, là où il y a le mot gloire, tu vois, c'est ça que je cherche. C'est là l'important. Voilà, et tout à coup, donc vous avez un ange. La foi, elle est simple. Notre foi est basée sur quoi? En Jésus-Christ, fils de Dieu, descendu sur terre, né d'une vierge. Et puis, ce Jésus est le Messie attendu du peuple d'Israël. Et ce Messie, eh bien, c'est notre Sauveur. Et nous sommes aujourd'hui ses enfants, d'accord? On croit en une folie, c'est la folie de l'Évangile. C'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre avec ton entendement. C'est quelque chose qui est déposé dans ton cœur par révélation, de comprendre ce qu'est la gloire de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. On est des Français, on aime bien les pourquoi, on aime bien les comment. Et moi, je ne peux pas t'expliquer comment une vierge a pu être enceinte du Sauveur Jésus. Et je ne peux pas t'expliquer pourquoi exactement, dans les détails, on avait besoin d'un Sauveur. La Bible l'explique. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce matin, eh bien, il est nécessaire qu'on ouvre nos cœurs. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça fait 4 semaines qu'on parle de la gloire de Dieu. Et on va conclure sur ce sujet-là. Et la naissance de Jésus fut une démonstration de la gloire de Dieu. Un ange arrive, il vient voir Marie, il lui dit « Tu vas être enceinte ». Elle est touchée, prise de frayeur, boum, 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 il se passe des choses. Et là, l'armée du ciel arrive, la gloire de Dieu est là. Ils ont tous peur, ils se demandent ce qui se passe. Ce n'est pas dans leur domaine de compréhension. C'est bien plus élevé, c'est bien plus haut, c'est bien plus profond. Ça touche les cœurs, d'accord ? Et la première réaction qu'a un homme face à la gloire de Dieu, c'est la crainte, c'est la peur. Je ne comprends pas, je ne maîtrise pas. Et le moment de la naissance de Dieu, de Jésus, a été un moment de gloire pour la terre. Personne ne l'a compris. Jésus est arrivé, Dieu a parlé à qui? Aux bergers. Les bergers à l'époque, c'était les gens qui étaient un peu reclus de la société. Ils n'étaient pas dans le système du monde actuel. C'était les gens qui étaient au loin, qui s'occupaient des brebis. Et alors que ces mêmes bergers étaient ceux qui fournissaient dans la loi de l'ancienne alliance les agneaux pour les sacrifices, et ben c'est à eux que Dieu s'est révélé en disant « Voici l'agneau de Dieu est arrivé maintenant. » Et la promesse de Dieu est là, le Messie est là et il faut que vous puissiez l'entendre. Et c'est à eux que Jésus s'adresse, à ceux qui sont au dehors. Ça marche? Vous me suivez? C'était un jour de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors on va continuer. On a prêché sur la gloire de Dieu pendant plusieurs semaines et on va continuer sur ça. Et ce matin, on va réclamer une atmosphère de gloire. Parce qu'on peut parler, on peut dire beaucoup de choses, on peut prêcher, mais si l'atmosphère de gloire ne descend pas, et ben tout ce qu'on aura dit pendant 4 semaines, ça ne sert à rien. Et l'important, je vous l'ai dit, c'est qu'il y ait des oreilles pour entendre. Maintenant, on va prier là. On va dire, Seigneur, que les oreilles de notre cœur soient ouvertes. Seigneur, que les oreilles de mon cœur soient ouvertes. Seigneur, tu commences à passer dans cette salle. On n'a pas de temps à perdre. Il nous reste quelques minutes. Tu es le Dieu du maintenant. Tu n'es pas le Dieu du demain. Tu n'es pas le Dieu d'hier. Seigneur, la gloire est déjà passée. Jésus est né. C'est déjà une gloire passée. Moi, je veux la gloire pour aujourd'hui. Et Seigneur, je réclame cette gloire maintenant. Seigneur, j'appelle une atmosphère de gloire ce matin. Viens toucher nos cœurs. Seigneur, viens toucher notre entendement. Seigneur, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, mais c'est toi, le Saint-Esprit, qui convainc nos cœurs par la puissance de la révélation. Seigneur, l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Seigneur, je veux, Seigneur, encore renouveler, Seigneur, cette promesse que tu m'as faite, Seigneur, d'être sauvé en ton nom. Amen. Ça va, vous me suivez, vous êtes toujours là? Oh là 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 là, je suis enflammé, préparez-vous. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Attache ta ceinture, il y a des cadeaux pour toi. Il y a des cadeaux pour toi. Et ces cadeaux, le problème, c'est que c'est à toi de les ouvrir. Jésus, il a fait un bel emballage, il est là, regardez, il l'a mis là. Alors, on va le mettre là, ce sera symbolique pour nous ce matin. Hop, on va le mettre là, c'est notre symbole. C'est pas prévu, mais c'est comme ça. Et alors, Jésus, il y a un cadeau. Dieu a un cadeau, il a envoyé Jésus, son fils, il nous a donné le salut. Mais c'est à qui d'aller le chercher? C'est à nous d'aller le chercher. C'est à moi de l'ouvrir. Ça dépend de ma volonté. Est-ce que je désire ce cadeau ou j'en veux pas? Ça marche? Vous me suivez? Donc, papa a prêché la semaine passée en Exode. Il nous a parlé de Moïse. Moïse qui est là. Et puis, j'aimerais faire un point sur les circonstances, le contexte. Donc, Moïse monte sur la montagne. Il monte sur la montagne à la rencontre de Dieu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il reçoit la loi de Dieu. Il reçoit les commandements. Il taille des pierres et Dieu, par sa puissance, voyez, il y a une relation avec Moïse intense. Il vient noter les règles, les lois à suivre pour le peuple, qui vont être ces lois qui vont révéler le péché, qui vont révéler ce qui est mauvais en l'homme, entre guillemets. Je simplifie, d'accord? Et ça, qu'est-ce qui se passe lorsque lorsque Moïse va descendre, le peuple a fait quoi? Il a fait un veau d'or. Ce veau d'or est une idolâtrie. Dieu se fâche, Moïse se fâche, il casse tout, et là, c'est fini. Et j'aimerais vous expliquer deux, trois petites choses par rapport à ça. À ce moment-là, Moïse va descendre. Et de tous les temps, encore aujourd'hui, il y a eu des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont les personnes consacrées. C'est les personnes qui donnent toute leur vie au service de Dieu. Et au niveau du temple, voilà, il y avait toutes sortes de rites. Et donc, ils sont là, ils servent l'Éternel, machin. Et puis, à l'époque, vous aviez tout le peuple, dans tout le peuple, pouvait être sélectionné un sacrificateur pour le service. À partir de ce moment-là, le peuple d'Israël va perdre quelque chose. Là, Moïse va dire, à partir de maintenant, ce sont les Lévites, il y a eu un sacrifice, et ce sont les Lévites qui vont endosser le rôle, et leur rôle dans la lignée, dans les générations, ce sera uniquement les Lévites qui seront choisis pour être des sacrificateurs. Donc le reste du peuple perd cet honneur de pouvoir être au service de Dieu. Il y a quelque chose qui est perdu à ce moment-là, à cause du péché. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? Donc il dit, Moïse, maintenant, vous lirez chapitre 33, à partir de maintenant, c'est les Lévites. Et il dit le problème, et Dieu va dire quelque chose d'important. Et il commence à parler, il est dans la relation avec Moïse, et il dit, tu comprends Moïse, moi je ne peux plus venir au milieu de vous. À cause de ce qui s'est passé là, de l'idolâtrie, du péché, si je viens au milieu de vous, je suis un Dieu saint, on l'a chanté ce matin, saint, saint, saint à l'Éternel, eh bien là, je ne vais pas pouvoir, mais vous n'allez pas résister à ma gloire. Ce n'est pas possible. Alors que fait Moïse? Ça se passe sur un chapitre, il va faire une tente, et il fait une tente à l'extérieur du camp d'Israël. Et il va appeler ça la tente de la rencontre. Et les personnes qui vont vouloir rencontrer Dieu vont devoir aller à cette tente. Ils vont devoir quitter leurs problèmes, quitter leurs soucis et dire, maintenant je décide d'aller à la rencontre de mon Dieu. D'accord? Et Moïse, c'est là où il était en relation avec Dieu. Si vous lisez, la nuée était là. Et puis au chapitre 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis vous voyez, puis un homme... Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Josué était déjà là. Mais là, on a l'Éternel qui parle avec Moïse face à face, dans la tente de la rencontre, en dehors du peuple. Et là, on va lire versets 12 à 22. Oh là là, il faut que j'accélère. Alors, Moïse dit à l'Éternel, écoutez bien, ça, c'est le cœur d'un intercesseur. Voyez comment Moïse a réussi, quelque part, à forcer le bras de Dieu, à toucher le cœur de son ami. Vous allez voir le cœur d'intercesseur de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. On est dans le contexte où le peuple a péché. Où Moïse a dit, maintenant c'est que les Lévis. Et là, je dis, je ne peux plus être au milieu de vous. J'enverrai mes anges, je vais vous conduire, il y aura les miracles, il y aura ma gloire qui se manifestera, mais moi-même, je ne serai plus au milieu de vous. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se présenter devant Dieu. Et il dit, souviens-toi de ce que tu m'as dit à moi, Moïse. Moi, Moïse, ton ami. Et il lui parle, et il lui a dit, cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes dieux. Il rappelle à Dieu les promesses et ce qu'il a déclaré sur sa propre vie. Et il continue. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Moïse, il y en a marre. Il tire un peuple, la Bible nous dit que c'est un peuple réfractaire. C'est un peuple qui connaît la gloire de Dieu, qui voit les miracles, qui voit la puissance de Dieu, mais qui constamment se détourne de l'Éternel. Et Moïse, il y en a ras-le-bol. Et il dit, maintenant, j'ai besoin de savoir ce que tu vas faire. Parce que s'il faut que je continue de te suivre, il faut que je sache. Et il parle à Dieu. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Il est en train de dire à Dieu, tu sais que je vais t'obéir. Tu sais que je t'ai toujours obéi depuis le début. Tu sais que j'ai suivi tes commandements. Tu sais que j'ai suivi tes prescriptions. Dis-moi encore quelque chose. Parce que ce que tu m'as dit là, c'est que tu allais anéantir tout le peuple d'Israël. Alors dis-moi ce que tu vas faire encore, parce que tu sais que je vais suivre tes voies. Et tu sais que je vais encore trouver grâce à tes yeux. Tu le sais. C'est ce qu'il rappelle. Il est en train de rappeler à Dieu sa propre obéissance. D'abord, il rappelle à Dieu ses promesses. Et ensuite, il rappelle à Dieu son obéissance envers lui. Ça va? Deuxième point fort. Regarde cette nation et ton peuple. Et il dit, regarde cette nation, c'est ton peuple, souviens-toi que tu l'as choisi. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi je veux bien marcher Moïse, parce que toi tu es sérieux. Moi je suis fidèle avec toi et toi tu es fidèle avec moi, avec toi je veux bien marcher. Et je te donnerai du repos. Oh, moi si Dieu me disait ça, je serais content. Moïse lui dit, et là Moïse il commence, il va plaider pour le peuple. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même, avec qui? Avec nous? Parle pas avec moi. T'imagines, Dieu vient dans ta chambre, il te parle, il te dit, je vais marcher avec toi, tu vas faire de grandes choses. Et toi, tu dis, s'il te plaît, prends ma femme et mes enfants avec moi. Parce que moi, c'est bien, mais il faut plus. Et bien, c'est ce que Moïse est en train de faire. Il est en train de dire, avec nous, souviens-toi qui je suis. Souviens-toi de la promesse que tu as faite sur ma vie. Et maintenant, moi, je veux continuer, mais je veux continuer avec le peuple. C'est fort d'avoir une intercession aussi puissante, d'être convaincu que tu es droit devant Dieu. Être convaincu que tu es juste devant Dieu et de pouvoir plaider pour les autres. Waouh, c'est puissant, hein? Avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. L'Éternel dit à Moïse, et là l'Éternel plie, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. À cause d'un seul homme, une seule prière, Dieu dit c'est bon, je vais m'occuper de tout le monde. Moïse dit, fais, et là on en vient au verset clé. Le verset clé qui nous a tenus pendant 3 semaines, là on est la 4e semaine, et là Moïse après tout ça, il a plaidé, Seigneur montre-moi tes voies, il faut que le peuple aussi, tu me connais, tu sais qui je suis, je vais te suivre. Mais maintenant, Seigneur, fais-moi donc voir ta gloire. Fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et papa a expliqué la semaine passée que le rocher c'est Jésus, c'est une préfiguration. Jésus qui te dit là, et si tu veux me voir, il faut passer par Jésus. Ça va? On va lire maintenant, je vous tiens encore un petit peu sur ça, et ensuite on ira plus loin, chapitre 34, verset 6, au moment où Dieu applique ce qu'il vient de dire à Moïse, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de quoi? De grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Dans l'Ancien Testament, vous devez savoir que les noms ont une importance exceptionnelle. Ça veut dire que le nom te donne ta nature quelque part. Et il dit, je dirai mon nom, l'Éternel, celui qui a toujours été, qui sera toujours. Et c'est pour ça que Moïse a dit, tu me connais par mon nom, tu connais ma nature, tu sais qui je suis au plus profond de moi, tu connais ma sincérité. Et c'est pour ça qu'il lui dit ça. Et là, il dit, tu entendras mon nom. Mais comprenez la réponse de Dieu. Il est en train de dire à Moïse, Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Et là, l'Éternel dit quoi? L'Éternel est un Dieu de quoi? De grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Amen. Ça veut dire qu'il est en train de définir qu'est-ce que sa gloire. Ma gloire pour toi, c'est que je suis fidèle. C'est que je suis bon, je suis rempli de compassion. J'aurais pu éradiquer tout le monde. J'aurais pu dire stop, mais à cause de toi, ma gloire va descendre encore sur ce peuple et je vais pardonner encore jusqu'à 1000 générations. Ça, c'est la définition de la gloire de Dieu. Il y a la manifestation de ce qui se passe lorsqu'il y a la gloire de Dieu. Eh bien, vous voyez, Moïse, il est là, et puis il parle à Dieu, et suite à ça, eh bien, il est dit que Moïse va descendre de la montagne, il était dans la gloire, dans la nuée, et il descend, et son visage resplendit. Et que qu'est-ce qu'il devait faire pour parler aux Israélites? Il devait mettre un voile, parce qu'ils n'étaient pas capables de supporter ça. Mais qu'est-ce qu'a dû faire Moïse pour aller voir la gloire de Dieu? Il a dû monter cette montagne. Et ensuite, il est redescendu, resplendissant de la gloire de Dieu. Et il fallait qu'il mette un voile parce qu'on ne pouvait pas regarder, c'était insupportable. On va lire en 2 Corinthiens, et on va voir Paul nous explique ça. Encore un long passage, accrochez-vous, accroche ta ceinture. Alors, est-ce qu'on va tout lire? On ne va pas tout lire. Alors, chapitre 3 de 2 Corinthiens, on va lire, tu avais mis tout le chapitre, hein, Louis. Alors, tu vas mettre... Alors Paul parle, et Paul parle exactement, un chapitre consacré sur ce qui s'est passé là. On va mettre à partir du verset 6.
Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure.
Alors stop, on reste là. Reste là. Paul est clair. Ce qui s'est passé, la gloire qu'il y a eu à ce moment-là, s'est passée. C'est bien, c'est super, on peut s'y référer, ça nous encourage, mais là, c'est passé. Et là, il est question d'une alliance supérieure en gloire. D'accord? On continue, Nat.
En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas leur regard sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.
Amen. Merci Nat, ça c'est fou. Très bien, il y a 4 semaines, je vous les ai parlé de la position qu'on a avec Dieu, l'image et la ressemblance. On a perdu l'image. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, c'est tout ce qu'on a perdu au cours des générations. On a perdu notre relation avec Dieu. On a perdu cette capacité d'être des sacrificateurs. On perd tout, en fait. On se fait voler pendant des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. D'accord ? Et là, ce qui va se passer, c'est que je vous avais dit, eh bien, l'image de Dieu, on était fait à l'image de Dieu, c'est notre position, qui nous sommes. On a perdu notre position avec Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Oui, ceux qui sont perdus, mais tout ce qu'on a perdu au fil des siècles aussi. D'accord ? Vous me suivez toujours ? Et qu'il y a un voile qui est descendu, on a du mal à aller devant Dieu, on est très charnel, on est centré sur nous, centré sur nos besoins primaires, et Dieu, il y a une soif en nous, il y a un désir de découvrir en chacun de nous, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, et on remet au lendemain. D'accord ? Et donc, on a perdu tout ça, mais Jésus est venu pour nous rétablir dans notre position en tant qu'enfant de Dieu. Et là, il nous est dit au verset 15, le voile est ôté, ok. Or, le Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, libre de ce voile, d'accord ? Nous tous qui sans voile, sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire que Moïse qui a contemplé une gloire et personne ne pouvait la contempler et qui devait se cacher parce que quelque part, ce n'était pas accessible à tout le monde. C'était lui, il y avait une relation personnelle, il y avait quelque chose de profond entre lui et Dieu, mais tout le monde ne pouvait plus en bénéficier. Et nous, il nous est dit là maintenant, vous, eh ben, vous pouvez retrouver cette image de Dieu et vous n'allez plus avoir besoin de recouvrir vos petits visages, vous allez pouvoir rayonner de la gloire de Dieu. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on rayonne réellement de la gloire de Dieu ? Est-ce que tous les voiles sont ôtés ? Est-ce qu'on vit en totale liberté ? Sommes-nous encore esclaves de quoi que ce soit ? Et pour le savoir, il faut faire comme Moïse. Vous savez, le peuple, il était là, et il se bagarrait, et puis il nous faut un Dieu, et puis ça va pas, on mange pas assez bien, et puis pourquoi il nous a sortis du peuple d'Égypte, et puis ça râlait, puis ça boudait, puis le tempérament de celui-là n'allait pas avec celui-là, il se battait, et puis vous voyez, c'est compliqué la vie en communauté, on a déjà du mal avec nos propres femmes, alors imagine-toi vivre tous ensemble tout le temps. Alors vous voyez, c'est charnel ça, c'est nos réalités, c'est la vie charnelle. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il sort de tout ça et il dit, moi, il faut que je monte et que je me tourne vers mon Dieu. Et la question pour nous, c'est quand est-ce la dernière fois que je suis monté sur la montagne ? Quand est-ce la dernière fois que j'ai rencontré la gloire de mon Dieu ? Quand est-ce la dernière fois que j'ai été touché par sa compassion, par son amour, par sa fidélité ? Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. On était à l'intercession mercredi, j'étais impacté par la fidélité de Dieu. Il y a quelqu'un qui priait sur la fidélité de Dieu. Et Dieu me disait, mais j'étais fidèle avant même que tu sois. J'ai jamais changé. La Bible nous dit que je ne change pas. Elle te dit ça, crois-le. Si tu n'arrives pas à me rencontrer, si tu n'arrives pas à entrer dans ma présence, le problème est chez toi, il n'est pas chez moi. J'ai mis le cadeau, je t'ai justifié, j'ai tout donné pour que tu puisses venir dans ma présence. Jésus est venu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu auras un accès auprès du Père. Crois au Seigneur Jésus et tu pourras entrer dans la gloire. Et là, Dieu est en train de restaurer quelque chose de fort. C'est qu'il est en train de dire, maintenant, vous êtes tous des Lévites. Maintenant, vous êtes tous des sacrificateurs. Quand tu acceptes Jésus, Jésus est le dernier sacrifice qui fait que maintenant, vous êtes juste devant Dieu. Vous avez cette possibilité d'aller directement à lui. Mais le seul moyen, c'est par la foi en Jésus-Christ. Quand ta foi en Jésus-Christ, elle arrive, peu importe tes problèmes, tes situations qui te retiennent, tu tournes tes yeux vers le ciel, tu montes cette montagne. Seigneur, je veux voir ta gloire. Et là, tu vas être transformé par la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit de gloire en gloire, ton image va changer de toi-même. Tous tes petits problèmes, tes petits soucis, tes petites afflictions, elles vont être balayées. Parce que là, c'est la gloire qui prend la place. Et là, tu redeviens un sacrificateur. La Bible nous dit, on ne prendra pas tous les versets, que nous sommes des pierres vivantes. Apocalypse nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, que tous ceux qui ont accepté Christ peuvent aller devant Jésus et plaider pour leur cause, faire pencher la balance, dire maintenant, Seigneur, je veux être un intercesseur, je veux toucher ton cœur, transforme ma vie. Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il faut que Dieu touche ton cœur. La gloire de Dieu, c'est pour maintenant. Dieu, c'est le Dieu du maintenant. La Bible, elle dit que tu es un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Plus besoin de galérer, plus besoin d'aller chercher un petit taureau. Oublie tous tes rites. Oublie toute ta religiosité. Abandonne ton péché. Et tu dis, Seigneur, je viens comme je suis devant toi. Je veux voir ta gloire. Et la Bible nous dit que, papa a parlé de ça la semaine passée, quand il y avait le Saint-Esprit, les 120, on est combien ici? On est une petite centaine. Imaginez le nombre de personnes qu'il y a là, qui étaient, ils ont mis 10 jours à aligner leur cœur, 10 jours à aligner leur cœur, à dire, Seigneur, on attend cette promesse. Et puis il y avait Sandy qui est là-bas, elle disait, mais moi je préfère aller par la louange devant Dieu. L'autre disait, mais non, moi c'est la prière, la louange c'est bon. Et puis l'autre disait, bah non, moi je préfère m'incliner, m'agenouiller et pleurer. Vous voyez ce que j'ai? Chacun avait sa méthode d'aller devant Dieu. Et là Dieu il a dit, non. Je vais tous vous aligner maintenant. La puissance du Saint-Esprit, elle va tomber sur vous. Vous allez être remplis de ma gloire. Il y aura des manifestations. Et puis, vous allez voir qui je suis réellement. Vous allez me connaître. Vous allez goûter une grâce supplémentaire. Et c'est comme si on disait maintenant, demain, Seigneur, je verrai ta gloire. Et tu repousses. Demain, tu ne verras rien du tout si tu vis comme ça. C'est maintenant. On a prêché pendant 4 semaines. Moi, je vous dis qu'il y a une atmosphère de gloire ce matin. Parce que si on dispose nos cœurs, si on est en capacité maintenant de dire, Seigneur, peu importe qui je suis, peu importe ce que je crois, je veux juste voir ta gloire. Montre-moi. Seigneur, je crois en Jésus, Fils de Dieu. Montre-moi, j'ai accès à toi. Je veux m'aligner maintenant, je veux m'agenouiller. Et bien, la gloire de Dieu tombe, simplement. Parce que c'est la promesse de Dieu, il n'y a pas changé. Il n'y a pas changé. Moi, j'ai une phrase que je me suis faite, en lisant la parole de Dieu, et c'est pour moi une clé, c'est te décentrer. Je me le souviens, je me le rappelle souvent. Alex, décentre-toi afin de pouvoir le contempler, pour pouvoir lui ressembler. Il faut que je me descende de moi-même, que je sorte de cette vallée là où il y a de l'idolâtrie, où il y a des problèmes. Tu sais bien que tu n'es pas bien devant Dieu. Tu le sais, ça bouillonne. Et en même temps, tu as envie d'aimer Dieu, mais tu te sens jugé par lui. On a souvent cette image du Dieu juge. Mais regardez comment il s'est montré à Moïse. Un Dieu de compassion, qui pardonne, qui aime. Il ne s'est pas montré comme le Dieu qui a jugé tout le monde. C'est un Dieu de justice. Et il ne laisse pas le coupable pour innocent. La Bible nous le dit. Mais c'est un Dieu bon. Et c'est sa bonté qui veut nous révéler. C'est de dire, Seigneur, je veux voir ta bonté. Et parfois, on est là dans notre vie, on a nos petits problèmes. Soit tu crois en Dieu et puis tu sens que ta vie, elle n'est pas au clair devant Dieu en ce moment. Et puis tu fais quoi? Tu dis, Seigneur, moi, je vais aller à la tente de la rencontre. Tu sors un petit peu de cette vallée-là et tu es obligé de... C'est comme si tu sortais de ta propre vie. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas prêt à régler mes problèmes, mais je veux quand même venir devant toi. Et c'est bon de faire ça. Mais Dieu, il te dit, maintenant, il faut que tu sois transformé, que tu prennes une décision, que tu abandonnes tout ça pour voir vraiment ma gloire. Parce que si tu cherches juste ma puissance et la manifestation, il n'y a pas de problème, je te la montrerai. Mais c'est ton cœur qui m'intéresse. Ah, où est notre cœur ce matin? Il est où notre cœur ce matin? Est-ce que je veux voir la gloire de Dieu? Seigneur, vous savez, Moïse, il dit ça, on aime bien dire ça, mais ça engage beaucoup hein, de dire à Dieu, je veux voir ta gloire. Parce que Moïse, ce n'était pas un rigolo. Moïse, il avait une vie droite. C'est pour ça qu'il pouvait parler comme il parlait à Dieu. Il n'y avait pas une vie de compromis. Il savait qui était son Dieu, toute sa confiance en Dieu. Et nous, on est des sacrificateurs. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu deviens un sacrificateur. Ça veut dire que tu abandonnes ton statut. Ah, je suis ingénieur, je suis boulanger, je suis pâtissier, je suis vendeur. Ça, c'est juste ton occupation maintenant. Maintenant, ton mandat, c'est d'être serviteur de Dieu. d'être un sacrificateur dans ta vie. On l'a chanté, je veux te servir. Je veux te servir, Seigneur, j'ai fait mes 8 heures de travail, c'est bien, je te sers dans mon boulot, je suis sympa, je suis mignon, mais je veux plus, je veux voir ta gloire. Et moi, on a dit la semaine passée plus de foi. Seigneur, je veux plus de foi pour pouvoir voir ta gloire. Alors, on va juste prendre Acte 17, verset 27. Il y a une clé là aussi. Il a voulu, donc Dieu, hein, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu se laisse trouver. Il n'est pas loin de toi. Dans ta vie, peu importe ta situation, il est à côté de toi. Et il dit, maintenant, il faut que tu me cherches. Moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait. À toi de me chercher. À toi de monter la montagne. Parce que là, il y a des beaux cadeaux et c'est toi qui dois les ouvrir. Je ne vais pas les ouvrir à ta place. Et on est dans une société où on attend que Dieu vienne vers moi. Dieu va venir vers moi. Dieu va se révéler à moi. Dieu va me parler. Mais commence à parler à ton ami. Commence à aller vers lui sincèrement. C'est là la clé. Dieu va transformer ma vie. Ah bah ouais, mais c'est parce que tu viens devant lui. Parce que tu gravis la montagne. Vous connaissez ce chant ? Je gravis la montagne, Seigneur. Ah, j'aime bien ce chant. Parce que ça montre que je suis un guerrier. Il y a une montagne devant moi, Seigneur, mais moi, je veux aller en haut parce que là-bas, il y a un cadeau. Là-bas, c'est pénible. Moi, je veux aller là-bas. Hein, ceux qui font de l'escalade, là, on en vit, on veut aller haut, au sommet. C'est pas facile. Il y a des vents, ça souffle, il y a de la poussière dans les yeux. Et à un moment donné, il y a la gloire qui tombe et qui transforme mon cœur. Mais c'est ma volonté. Alors tu peux rester là, ça c'est le français. Il reste là. Oh, quel beau cadeau. Oh, papa. Ah, mais Fred, ce que tu vis dans ta vie, mais j'aimerais tellement vivre ça. C'est magnifique. Je ne sais pas comment expliquer. C'est beau ce cadeau. J'aimerais la même chose. J'aimerais y goûter. Mais tu comprends, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas. Et puis tu comprends, j'ai trop de choses à abandonner. Et finalement, mais moi je ne suis pas digne de venir devant Dieu. Je ne suis pas digne, j'entends souvent ça. Je ne suis pas digne de venir devant Dieu. Mais Dieu il dit, attends, je t'ai donné mon fils, il est mort, son sang a coulé, il suffit que tu crois en moi. Arrête de te tracasser avec les petits problèmes du quotidien, crois en moi simplement. Et la grâce va tomber sur toi et moi, je vais m'occuper de ton cœur. Arrête d'essayer de t'occuper des choses que tu ne peux pas t'occuper. Laisse-moi m'occuper de ton cœur. Je vais te faire passer de gloire en gloire. Tu vas voir ma manifestation dans ta vie. Les colonnes de nuées vont tomber sur toi. Ça va changer ton cœur. Le problème, c'est quand tu essaies de te battre pour être juste devant Dieu, tu n'y arrives pas. Tu fais comme les Israélites. Tu pleures là et tu demandes quelque chose à adorer, mais tu n'es pas prêt à changer. Ça marche ? Vous me suivez ?
Ouais.
Alors on va prier.